Salut à toi et bienvenue dans la serre. Ici, on apprend à comprendre le fonctionnement de son jardin privé, à prendre soin de son jardin intérieur et à cultiver son jardin public. Dans cet espace, on débroussaille son esprit grâce à la métacognition et la gestion de soi, on s'éduque à l'alimentation afin de nous aider dans notre floraison et on se demande pourquoi on croit ce en quoi on croit afin de s'épanouir dans les meilleures conditions. J'ai à cœur de te servir de guide et à développer ta curiosité de botaniste en herbe en mettant les mains dans la terre, en s'émerveillant de ce qui évolue chez toi chaque jour et en profitant de ce qui est déjà là. En pénétrant dans la serre, sache que l'environnement ne sera pas toujours confortable pour toi, mais les conditions seront optimales afin de mieux te comprendre. Se préparer aux fêtes de Noël, selon moi, c'est complètement inutile pour certaines choses, mais ça peut être intéressant pour d'autres. Alors je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui. Bienvenue dans la serre, j'espère que tu as passé un bon week-end et c'est parti pour une nouvelle semaine. Mais avant de commencer, sachez que je vous ai créé un petit e-book qui contient mes 6 meilleurs conseils afin de vivre les fêtes sereinement et sans culpabilité. C'est un e-book que je distribuais jusqu'à présent à mes clients et là je lui ai refait une petite déco et je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de vous l'offrir, d'offrir ça aux personnes du coup qui m'écoutent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux. Alors si jamais, sachez que j'y aborde des choses différentes et aussi d'autres perspectives par rapport à ce que je vais aborder aujourd'hui dans cet épisode de podcast. Alors n'hésitez pas à aller le télécharger, c'est encore quelque chose d'un petit peu différent. Ça peut peut-être vous aider ou aider une personne de votre entourage. Alors n'hésitez pas non plus à le partager si jamais ça vous a parlé, si ça vous a plu ou que ça peut aider quelqu'un. Moi en tout cas, j'ai mis tout mon amour afin de faire un maximum de bien dans cette période. Alors le lien est en description de l'épisode. Donc bonne découverte. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans cet épisode, on va s'intéresser à la préparation des fêtes, mais comme l'indique le titre, pas forcément dans le sens que tu crois. Pour ceux qui fêtent Noël en famille, voire entre amis, souvent ça se passe avec 1, 2, 3, peut-être 4, allez, 5 repas. Le schéma classique, on va dire, c'est de commencer le 24 au soir et pourquoi pas de continuer de prolonger ça le 25. Avec du coup plus ou moins de repas autour, suivant la famille, les traditions, les habitudes, etc. Mais même en partant du principe que ça dure 2 semaines, admettons, 2 semaines sur l'année, c'est environ 4% de l'année. Je pose ça là comme ça, on détaillera ces propos au fur et à mesure de l'épisode aujourd'hui. Mais gardez ça dans un petit coin de votre tête. Donc il peut y avoir plusieurs manières de préparer les fêtes, ou du moins, ça ne veut pas forcément dire la même chose pour tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être cool de vous parler de tout ça, en parlant de cet aspect préparatif, organisationnel, mais du coup sous pas mal d'angles différents. Que ce soit au niveau de l'alimentation, du rapport au corps, mais aussi de l'aspect social, gestion du stress, etc. Donc on va donc se balader dans ces différents, entre ces différents sujets. Alors certains du coup te parleront probablement plus que d'autres, mais voilà, je voulais faire quand même quelque chose qui puisse parler à pas mal de personnes différentes, parce que encore une fois, selon moi, je pense qu'on peut avoir aussi un peu tous une définition différente du fait de préparer les fêtes. Alors, commençons. Donc, je voulais commencer par vous parler des personnes qui vont avoir une espèce de décompte qui va s'enclencher plus ou moins longtemps avant la date des fêtes et qui vont du coup essayer d'anticiper les repas, par exemple. Donc préparer les fêtes, ça peut être ça chez certaines personnes, et notamment celles qui ont, pour qui l'alimentation peut être quelque chose de difficile à l'année. Et ça peut être d'autant plus challengeant avec l'histoire et l'image qu'on se raconte autour des fêtes. Donc pour cela, ces personnes-là, elles vont essayer de compenser à l'avance les kilos qui vont être potentiellement pris. Il y a une forme de restriction qui commence en prévision de plus ou moins longtemps avant les repas prévus ou la période qui les concerne. Donc ça, ça peut être sur une journée, par exemple une journée à l'avance, mais pour d'autres, ça peut être des jours, voire même des semaines avant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, début novembre arrive, elles vont commencer à vouloir se mettre à la diète à ce moment-là, mais pas dans une intention de mettre en place des nouvelles habitudes à long terme, mais justement pour compenser cette période qui arrive. Et moi, je suis pas vraiment, voire même pas du tout OK avec cette approche, car on va arriver, après plus ou moins de temps de restriction, devant des repas qui sont généralement opulents, et c'est là qu'on peut avoir une fatigue décisionnelle importante et lâcher complètement prise, voire carrément abuser, parce que du coup, comme on s'est restreint, on s'est dit « ça y est, c'est bon, je lâche les chevaux ». Sauf que si vous étiez arrivé, par exemple, de manière complètement normale devant le repas, peut-être que vous aurez mangé 2, 3, 4 fois moins de choses. Parce que ça peut aller super vite, suivant dans quel état émotionnel, physiologique aussi vous arrivez devant des repas qui sont beaucoup plus à votre disposition. Plus derrière les conséquences aussi que ça peut avoir. Hein. Enfin, je pense que je vous apprends rien. Ce genre de cycle et de relation un peu amour-haine avec la nourriture, bah, ça peut assez vite nous amener vers des troubles du comportement alimentaire, et c'est pour ça que je ne recommande pas du tout cette approche. Ce genre de comportement, de prévision, de compensation et du coup de mise en place d'une certaine restriction pour anticiper justement, comme je vous disais, c'est pas forcément un comportement normal. Et ça, c'est pour ça que je fais un petit peu de prévention aussi aujourd'hui. Et parce que ça peut être le symptôme de troubles du comportement alimentaire en rapport du coup avec votre corps, les conséquences que ça peut avoir, etc. etc. Donc il faut vraiment faire attention avec ça. Si toi qui m'écoutes, tu te reconnais dans ce que je raconte, n'hésite pas à venir m'en parler, et sans vouloir t'aider moi personnellement nécessairement, on pourra en discuter si besoin, je peux aussi te rediriger vers un professionnel spécialisé à ce sujet qui pourra vraiment t'aider. Donc faut pas rester seul face à ce genre de réflexe, d'anticipation, de compensation. Il y a des personnes qui peuvent vraiment t'aider, et à ce moment-là, il peut être intéressant de se demander aussi pourquoi on désire compenser et si rationnellement c'est justifié ou pas. Donc ma piste de réflexion, c'est la suivante. Il vaut mieux arriver à un repas en ayant faim plutôt qu'en crevant la dalle. Nos choix vont être bien différents et souvent aussi beaucoup plus mesurés, parce que on n'est plus drivé par une faim plus ou moins intense, quoi. Donc moi, je vous invite à manger normalement, peut-être focus sur les protéines, à la limite les fibres, mais pas compenser non plus de ouf avant ou après. Après, il y a d'autres personnes aussi qui vont avoir ce même décompte, mais plus de l'autre côté du spectre, plus dans le sens genre foutu pour foutu. On peut partir du principe que de toute façon, on va prendre du poids. Donc tant pis, on verra ça après. Après cette période, après ce repas, lorsque tout revient un peu à une espèce de normale. Enfin, à ce moment-là, on va plutôt revenir à ses anciennes habitudes. Et pour certains, le début de l'année va être un tremplin vers de nouvelles actions qui vont durer plus ou moins longtemps. Et du coup, bah, c'est un peu aussi à ce moment-là qu'on va fleurir de partout, toutes ces pubs, couverture de magazines, contenu sur les réseaux sociaux, pour se détoxifier, éliminer les excès, etc. etc. Mais spoiler alerte, si jamais votre corps n'était pas capable de le faire tout seul, on mourrait très facilement. Donc vous en faites pas à ce niveau-là, et puis je vais venir développer un petit peu là-dessus un peu plus tard, mais à part manger des légumes, bien s'hydrater, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à faire. Après, c'est clair que le début de l'année, c'est un moment, un super moment, pour se lancer dans de nouvelles choses. Et pareil, je vais développer un petit peu plus tard. Mais je voulais juste finir sur justement cet aspect, un peu ces deux côtés du spectre. Il y en a qui compensent, il y en a qui se disent « bah vas-y, Balek, de toute façon, je vais prendre du poids, voilà ». Mais après la période de Noël du Nouvel An, oui, souvent, on a pris quelques kilos. Mais en fait, c'est tout à fait normal et proportionnel à une alimentation qui va être en plus grande quantité, plus grasse, plus riche en glucides que d'habitude. Faut pas oublier non plus que la consommation d'alcool, ça fait retenir énormément de flotte. Donc voilà, c'est 1 plus 1 est égal 2, quoi. À un moment donné, vous doutez bien qu'à partir du moment où vous passez d'une alimentation normale à une alimentation un peu différente, bah, cette différence, elle se retrouvera également dans vos ressentis corporels, dans le poids sur la balance, dans peut-être aussi l'aspect visuel avec une cellulite un peu plus importante à cause de la rétention d'eau, mais encore une fois, c'est normal. Et ça, c'est applicable aux fêtes, mais à n'importe quel autre moment de l'année où vous allez, je sais pas, avoir des repas de famille, des repas d'affaires, des choses où vous sortez beaucoup plus, où vous changez, vous sortez aussi un petit peu de vos habitudes. Enfin, c'est normal en fait. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est assez peu probable, voire même impossible, que sur 3-4 kilos de prix par exemple, ça peut paraître énorme quand on se pèse, on dit « Oh putain, j'ai complètement déconné et tout », mais c'est impossible que ce soit que du gras. C'est-à-dire que jamais de la vie, vous avez pris 3-4 kilos de gras. Mais pourquoi ? Parce que quand on consomme des repas un peu plus riches que nos habitudes, nos stocks de glycogène vont bien se remplir, nos stocks d'eau aussi, et notre système digestif aussi. Donc physiologiquement parlant, nous sommes tous soumis aux mêmes lois de la thermodynamique, et forcément, si on a plus de densité dans nos cellules, dans nos intestins, etc., que ça va peser plus lourd sur la balance, c'est logique. Mais le truc, c'est que c'est absolument pas gravé dans le marbre. Et je vous invite à garder à l'esprit que de toute façon, en reprenant vos bonnes habitudes, tout se remet en place dans l'ordre rapidement, en à peine quelques jours. Donc déjà, c'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer si vous voyez que vous avez pris du poids. C'est normal. Et encore une fois, là je vous parle des fêtes parce que c'est un peu la thématique, c'est la période, on est à l'heure où j'enregistre cet épisode, la deuxième semaine de décembre. Et voilà, parce que du coup je trouve ça cool de vous parler des choses dans la thématique actuelle. Mais c'est encore une fois applicable pour tout. Donc à partir du moment où vous remettez un bon apport en micronutriments, en macronutriments dans votre alimentation, au bout de quelques jours, quelques semaines, tout revient à la normale. Et en plus de ça, bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire, je suis navrée, il n'est pas nécessaire, encore une fois, je le répète, de détoxifier son organisme, parce que, bah voilà, on l'a vu, nos organes, ils font très bien le job, mais c'est clair que, encore une fois, ça paraît assez logique que si vous passez du saumon, du foie gras, du fromage et du champagne, le même jour à le lendemain des jus verts de légumes crus avec je sais pas, un bouillon de poule ou une soupe de tomates, bah, que vous allez vous sentir quand même un peu différent en termes de confort digestif et physique global, quoi. Mais ça, c'est pas une question de détox, donc c'est pas nécessaire non plus de préparer quoi que ce soit en amont pour le post-fête, parce que j'en vois hein, commander des trucs voilà, pour préparer la détox après période des fêtes, mais c'est complètement inutile, vraiment gardez votre argent. Parce que mis à part une alimentation variée, un rythme de vie relativement sain avec un bon sommeil, une bonne hydratation, du mouvement, une bonne organisation pour mieux gérer son stress, bref, des classiques quoi, mis à part ça, vous n'avez pas grand chose à préparer à la limite quoi. Mais ça, c'est à l'année, c'est pareil. Parce que moi, ce qui me chiffonne un peu, c'est que souvent, bah, j'ai l'impression qu'on voit pas forcément le problème dans le bon sens. Je m'explique. L'important, ce n'est pas ce que l'on fait entre Noël et le Nouvel An. L'important, c'est ce que l'on fait entre Nouvel An et Noël. Et ça, cette phrase, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous ramène vraiment à la réalité. Et en effet, tout ce que je t'ai cité avant, donc voilà, quand je te disais bonne hydratation, mouvement, organisation, gestion pour la gestion du stress, le sommeil, etc., etc., bah, c'est bien mieux de les avoir à l'année que juste histoire de ne pas ressentir une certaine culpabilité après certains comportements en après-fête, quoi. Mais il me semble important aussi de savoir que si on a fait certains choix à certains moments, voilà, durant certains repas, durant certains goûters, thé, café chez la tante ou l'ancienne babysitter, ou bref, les personnes que vous visitez et qui vous proposent, je sais pas, des gâteaux, des trucs, que vous reprenez une part de bûche, que vous resservez, que sais-je, une entrée, ou vous prenez un apéro, ou que vous buvez de l'alcool ou quoi, bah, c'est pas, il faut pas culpabiliser en fait de ça, et du coup chercher à atténuer cette culpabilité en faisant justement tout ce qui est détox, etc. Si vous faites le choix de consommer ces choses-là à ce moment T, c'est parce que vous en avez envie, parce que ça vous fait plaisir. Il y a personne qui vous met le couteau sous la gorge pour dire « mange ces toasts !» Genre non, c'est un choix. Donc je pense que c'est important aussi de les assumer, de comprendre que bah, on a le droit de se faire plaisir dans une certaine mesure que chacun estime plus ou moins haute suivant bah, ce qu'il veut pour lui, et ça, ça ne regarde que lui. Et est-ce vraiment utile du coup de le regretter derrière? Ça, c'est une question très personnelle, à chacun de se faire son avis en fait. Mais pour en revenir du coup au tremplin de début de l'année, ça peut être intéressant de profiter de cet élan du début de l'année. Et ça, je le souligne aussi dans cet épisode parce que souvent j'en vois, pareil sur Instagram, tout ça, se moquer un peu des gens qui viennent à la salle en début de l'année et qui disent 2-3 semaines, 2 mois après, il n'y aura plus personne. Alors oui, c'est quelque chose que l'on voit. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée de se moquer de ces gens-là parce que, en fait, bienvenue quoi. Bienvenue, c'est tu profites de cet élan du début de l'année, bah tant mieux en fait. Enfin, je veux dire, c'est plus honorable que quelqu'un qui va faire traîner ça des mois et des mois et qui finalement ne va jamais y aller. Donc en fait, ça nous donne, ce début de l'année nous donne une espèce de ligne de départ, un nouvel horizon des possibles, la petite impulsion qu'on peut avoir du mal à se donner de manière intrinsèque, mais ça ne vient pas vraiment de nous, finalement, cette manière-là, c'est plutôt un contexte, mais un contexte ne dure jamais éternellement. Et c'est du coup à ce moment-là que ça peut être intéressant de cultiver la discipline et que c'est là aussi qu'elle rentre en jeu. Et ça, peu importe à quel moment, on décide d'amener un peu de clarté dans ses habitudes alimentaires. Voilà, là je parle de début de l'année, mais c'est pareil, c'est applicable à tout autre moment. Mais du coup, voilà, apportez-vous un petit peu de flexibilité à cette période-là et décidez de ce que vous, vous en avez envie en fait, simplement. L'autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'était par rapport au stress des préparatifs, mais plus organisationnel, on va dire. Parce que nos contextes de vie, ils sont plus ou moins prévisibles. Ce qui est préparable, c'est un peu notre organisation, tout en laissant bien sûr une part de flexibilité pour les imprévus, parce qu'il y en a toujours. Parce que la vie, c'est ça, une longue suite de choses qu'on n'a pas prévues, dans des choses qu'on a prévues. Et c'est là du coup qu'on peut distinguer plusieurs teams. Celle qui est plus ou moins flexible, comme moi, qui a besoin d'un juste milieu organisationnel, mais dont les imprévus ne font pas vraiment peur non plus. Après, il y a une autre team, c'est celle un peu control freak, on va dire ultra rigide, mais dont l'anxiété est proportionnelle au besoin que ce soit carré. Personnellement, c'est pas forcément la team que j'envie, parce que rationnellement, pour ma part, en tout cas, je le sais pertinemment que c'est pas possible de tout contrôler. Et comme du coup, c'est une perception qui est très réaliste pour moi, bah du coup, je sais que ça sert à rien, quoi. Mais pour d'autres, ils se sentent très bien avec ça. Et c'est ok, à vrai dire. Chacun son mode de fonctionnement. Comme je dis toujours, à partir du moment où c'est pas une souffrance, bah tout va bien, on fait tous du mieux qu'on peut, à vrai dire, pour gérer nos émotions et notre anxiété. Mais ça peut quand même être mis à rude épreuve dans des périodes justement où on doit organiser beaucoup de choses, encore une fois, que ce soit des repas, des cadeaux, les conflits des uns et les autres, les relations, les déplacements, etc. Donc c'est ok, chacun le vit un peu comme il peut. Et ce qui est un peu dommage aussi, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'il existe une certaine pression sociale qui incite à ce que tout soit bien. Plus parfait encore que le reste de l'année. Et ça, c'est vous qui me le dites. C'est pour ça que je voulais vous en parler aussi aujourd'hui. Parce que ce sont les mots qu'a utilisé l'une d'entre vous lorsque je vous ai demandé en story ce qui vous rendait anxieux à propos des fêtes. Et ici, ça rejoint ce truc très connecté de la pression par rapport au regard des autres, au paraître, ce qui peut aussi être très en lien avec l'estime et la confiance en soi. Si jamais tu veux aller plus loin, j'en ai parlé dans d'autres épisodes de ces thématiques, comme les épisodes 8, 10 et 17, que du coup, bah, je t'invite à aller écouter, si jamais tu veux développer. Et Du coup, bah, encore une fois, chacun fait un peu du mieux qu'il peut avec tout ça. Et du coup, on peut penser à une dernière team, la team un peu du à rien à foutre. Donc, qui soit se laisse un peu porter parce que, voilà, rien de spécial à organiser, ou simplement qui n'a pas du tout envie de se prendre la tête avec tout ça pour diverses raisons. Donc voilà, c'est un petit peu les trois teams, je trouve, qu'on peut distinguer dans notre gestion par rapport aux préparatifs des fêtes, peu importe le niveau finalement. Mais du coup, là, je vais faire une petite parenthèse, une petite pensée pour les personnes qui fêtent les fêtes seules, que ce soit intentionnel ou non, ou en petit comité ou en couple. J'ai déjà eu l'occasion de faire un Noël seul et c'était pas vraiment volontaire, c'était pas vraiment drôle non plus, honnêtement. J'étais loin de ma famille, pas vraiment d'amis, enfin bref, ça a pas été vraiment facile. Et j'ai aussi passé des Noëls au travail ou même tout simplement avec mon chéri. Mais à ce moment-là, je vous invite quand même à marquer le coup en mangeant un truc qui vous fait super plaisir, voilà, quelque chose qui vous fait chaud au cœur, ou voilà, boire un petit truc qui vous fait kiffer, vous acheter une pâtisserie, bref, ça fait toujours du bien. Et je trouve que du coup, c'est un bon moment aussi pour le faire, même si du coup, on passe pas forcément les fêtes hyper entourées ou quoi. Bah voilà, vous pouvez mettre ça aussi par exemple dans vos préparatifs pour les fêtes, réfléchir à un truc à manger qui vous ferait grave plaisir. Enfin, voilà quoi. Donc en bref, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise team, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est mieux s'il n'y a quand même pas trop de pression à l'approche de ces fêtes. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, mais on fait tous des para... enfin, on fait tous avec nos paramètres de base. Plus ou moins compliqué. Alors, se rajouter du stress, de l'anxiété, de la pression pour une période de l'année comme celle-ci, franchement, c'est pas tellement ce que je recommanderais le plus pour une question déjà de bien-être émotionnel et mental. Mais ça peut aussi toucher le physique, bien sûr, avec les différents signaux inconfortables de l'expression du stress. Parce qu'il faut pas oublier que la gestion du stress, c'est un pilier qui est fondamental pour notre santé physique et mentale. Alors, je pense pas vraiment me tromper dans le fait que c'est tout de même plus facile à vivre si on arrive à apporter un peu de flexibilité à cette période. Alors, si toi qui m'écoutes, tu stresses un petit peu avec tout ça, avec toute cette organisation et tout, bah, mon épisode aujourd'hui est vraiment là pour essayer de t'amener ce message de, voilà, si tu te sens un peu submergé, prends quelques pas de recul, en vrai. Tu vas pas perdre du temps, au contraire. Donc, pose aussi un peu ton cerveau sur papier, fais les choses dans l'ordre et il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme tu veux. Après aussi, une autre discussion que j'ai eue avec d'autres personnes sur Instagram, j'ai pu remarquer que ce qui rendait pas mal les gens anxieux, finalement, c'est pas forcément l'alimentation en soi, ni voilà, la famille, etc. Mais parfois, c'est aussi plutôt les gens, l'ambiance générale. Alors là, on peut parler du coup, bah, oui, quand même, effectivement, de la famille, des conflits et tout, de ceux qui veulent pas être là, si certains sont là, blablabla, qui va faire quoi chez qui, etc. Mais ici, je parle plutôt des gens que l'on croise, par exemple, aux courses, dans les magasins, dans la rue, etc. Et c'est vrai qu'on peut remarquer que souvent, les gens, ils sont un peu stressés à cette période. Enfin, genre, moi, je remarque quand même que parfois, les gens sont un peu aigris, un peu tendus, quoi. Après, est-ce que c'est une vérité générale? Je ne sais pas. Mais en discutant avec vous, c'est quand même quelque chose qui est pas mal revenu. Donc, pareil, si ça peut vous aider à prendre du recul là-dessus, je vous en touche un petit mot. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tendance à remarquer les choses sur lesquelles on est déjà focus de base. Admettons que voilà, vous voulez acheter prochainement une Audi. Vous allez remarquer bien plus que d'habitude des voitures de cette marque. Et ça, c'est normal. Notre cerveau, il doit s'adapter à une quantité faramineuse d'informations. Et pour ça, il va garder des points de focalisation à disposition et faire le tri. Donc, il suffit souvent de croiser une personne mal lunée et on va focus sur toutes les autres qui sont mal lunées. Si on croise une personne négative, souvent on peut aussi oublier toutes les autres qui étaient neutres, voire même sympas. Et là, on a deux biais, celui de confirmation et celui de négativité. Donc, n'hésitez pas à faire vos petites recherches sur le sujet, si jamais je vous mettrai les liens de ces biais en description également. Et prenons à la limite un dernier exemple familial cette fois pour boucler la boucle. Si votre mère par exemple ou votre grand-mère qui organise des repas de famille se met une grosse pression et qu'elle est vraiment irritée dans les communications que vous avez avec elle, bref, vous avez des exemples d'associations un peu sauvages mais compréhensibles et répétitives entre fête et stress, bah forcément ça va aussi beaucoup plus vous influencer et vous allez le remarquer également beaucoup plus facilement. Mais C'est pas parce que certaines personnes croulent sous le stress de l'organisation, des préparatifs, etc., que vous devez vous laisser également embarquer par ce stress-là. Et ça, que ça concerne des personnes proches comme des inconnus. Parce que oui, les gens peuvent être stressés, mais c'est à ce moment-là qu'il faut aussi faire la différence entre les émotions des autres et les siennes. L'empathie, c'est le fait de ressentir ce que les autres peuvent ressentir. C'est une capacité ultra commune à tous les êtres humains, étant donné que voilà, les émotions sont contagieuses. Après, il y en a, ils sont câblés un peu différemment, mais voilà. Tout en sachant pertinemment que ces siennes ne nous appartiennent pas. Sinon, ça s'appelle de la sympathie, c'est différent. Et je ne pense pas personnellement que ce soit une question énergétique, qu'il faille créer un bouclier autour de soi par la force de la pensée pour se protéger, mais plutôt de se rappeler à l'ordre lorsque les pensées commencent à s'assombrir. À partir de quel moment les nuages, là, dans ma tête, ils sont arrivés? Quel a été le facteur déclencheur? Admettons que voilà, vous commencez dans la journée à avoir des pensées un peu sombres, voilà, un peu négatives et tout. Est-ce que vous avez croisé un connard mal luné? Est-ce que vous avez eu une pensée qui vous a amené à voilà, dérouler autre chose qui n'était pas forcément hyper fun? Voilà, essayez de remonter à la source pour mieux comprendre le pourquoi du comment. En vous rappelant aussi à l'idée que nous ne sommes pas responsables des émotions des autres, ni de leur propre gestion des émotions. Si les gens sont stressés par la période des fêtes, ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre problème. Et ça peut importe votre rapport d'intimité avec la personne, en fait. Mais là, je fais un petit truc aussi pour certaines personnes, parce que suivant notre passif, on peut voir certaines expressions faciales, ou même certaines interactions, comme quelque chose qui nous met un peu en danger. Ça peut être une réponse automatique à un stimuli. Mais du coup, le capter et remonter à la source, ben pareil, ça revient au même, ça peut en apprendre énormément sur nous. Et en plus, ça nous entraîne à ne pas mélanger ce qui nous appartient et ce qui est vécu par les autres. Donc tout ça, tout ce que je vous raconte là, ça a une certaine logique et j'espère que vous arrivez à la voir. Mais ça peut être un bon entraînement aussi en prévision de repas de famille un peu difficile parce que ça arrive, il y a des personnes qui ont de très bonnes relations familiales, d'autres avec qui c'est un peu tendu, avec qui la communication n'est pas forcément facile, parfois on peut être spectateur aussi du coup de ça, d'un conflit, c'est jamais trop trop facile, et ça c'est un peu l'aspect social que je voulais aborder avec vous aujourd'hui dans cet épisode. Et je voulais également rebondir sur un message que j'ai reçu qui parlait du fait que la période des fêtes, elle pouvait être propice aussi à se mettre la pression à cause notamment des réseaux sociaux, des stories des uns et des autres, notamment des influenceurs. Enfin, le meilleur moyen de ne pas se laisser influencer par ça, c'est de ne pas les suivre. Après, je vous juge pas, hein, mais ça reste quand même une bonne méthode, on va dire. Après, ça peut même être la télé, les téléfilms, les téléréalités, genre Familles Nombreuses, les pubs, où on voit énormément de décorations, des calendriers de l'avant-maison. Voilà, on en revient encore aux préparatifs. Et ça peut être facile de se comparer et de se sentir submergé par la charge et la pression qui en découle, en fait, en pensant qu'on n'a pas le temps ou qu'il y en a d'autres qui font les choses mieux que soi, etc. Mais là, je veux juste m'arrêter quelques petites secondes sur cette notion de pression, parce que, en effet, cette pression, je tiens quand même à rappeler que personne ne la met à personne. On pense que c'est la société ou les autres qui nous la mettent, mais non. Si on se met la pression pour faire un Noël de telle manière, que ce soit dans l'organisation, les repas ou encore la gestion des invitations des uns et des autres, des conflits aussi parfois, pour faire en sorte que tout le monde soit content. Alors l'idée n'est pas de se jeter la pierre non plus, mais plutôt d'essayer de faire la part des choses et de se rappeler que nous sommes, en tant qu'êtres humains, des décisionnaires, et si les personnes autour de nous ne sont pas contentes de ces décisions, ce n'est pas notre problème. La vie des autres n'est que la vie des autres, ça je pense que vous connaissez, un petit rappel quand même ne fait pas de mal à ce sujet parfois. Mais pour en revenir au fait de préparer les fêtes, je pense qu'il est aussi important de rappeler que ces fêtes ne sont pas un espace spatio-temporel différent, que ce n'est pas une période non plus où voilà, vos choix ne vous appartiennent plus, où vous ne pouvez plus prendre de décisions, où vous ne pouvez plus poser vos limites, les exprimer, les communiquer, même si parfois la réception en face elle est pas top ou crainte en fait. Mais c'est pas une période qui annule tout ça, qui sont des bases en fait pour vous, préserver votre santé mentale et pour vous préserver aussi d'un stress qui peut être un peu inutile, quoi. Donc vous avez le droit, par exemple, de demander ce qui est prévu pour manger et focaliser votre apport en protéines, en fibres le reste de la journée, par exemple, voilà, si vous avez envie de gérer vos macronutriments ou pas. Vous pouvez aussi partir du principe que vous vous en foutez, que vous avez envie d'avoir la surprise, et c'est très cool, mais simplement, restez à l'écoute de vos besoins, en fait. Si vous avez besoin d'avoir des informations ou pas, et voilà, après, personne ne peut vous juger là-dessus. La communication, c'est super important. Si la personne en face vous juge, peu importe pourquoi, en ce qui concerne du coup tout ça, la période des fêtes, l'organisation et tout, c'est pas votre problème. Ok? Donc, en bref, les préparatifs, ça peut être aussi organiser les repas. Alors, je vous apprends rien si je vous dis que poser votre cerveau sur papier permet de se libérer quand même d'une certaine charge mentale. Personnellement, je suis quelqu'un qui a une mémoire de merde, alors, faut le dire, j'écris tout pour rien oublier. Mais du coup, je ne pense pas à ne pas oublier. Et du coup, je libère de l'espace dans ma mémoire vive, je rumine beaucoup moins et je sais un peu ce que j'ai à faire. Donc, c'est vraiment sous-estimer les listes et les notes. Moi, je vous conseille de trouver un système qui vous permette de aussi mettre un certain niveau de priorité entre les tâches. Et voilà, n'oubliez pas non plus que Noël, c'est que Noël, entre guillemets. Je remarque quand même pas mal de fatalisme face aux fêtes. Et c'est aussi pourquoi je vous fais cet épisode aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que vous avez un certain pouvoir de décision, encore une fois, et que même si on pense ne pas avoir le choix, qu'on souhaite éviter les critiques, les réflexions, eh bien votre voix, elle a de l'importance, que cela soit compris ou pas. Alors si vous avez besoin de clarté, de communication, d'organisation, encore une fois, demandez-le, réclamez-le, ou même faites-le en fait. Parce que pour moi, se préparer aux fêtes, c'est ça. Telle une guirlande lumineuse, bah, ne pas vous laisser éteindre. Être au clair avec vos besoins, anticiper ce qui est anticipable et accepter que ce ne sera pas parfait, mais que c'est clairement pas le plus important en fait, bah ça permet de préparer les fêtes dans un état d'esprit déjà où on va être beaucoup plus zen, beaucoup plus ouvert. Et malheureusement, si ce n'est pas le cas de tout le monde, bah tant pis. Vous en tout cas, vous avez déjà pris le temps d'écouter cet épisode. Alors, bah, d'ici là, je vous souhaite de bons préparatifs, ou pas, et n'oubliez pas de vous lâcher la grappe aussi, surtout. Alors, bonne semaine!